Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Nous voici donc en ce carême 2019 dans une prédication sur les sept péchés capitaux. Pourquoi être passé cette année sur ce qui peut être négatif ? Eh bien, nous essaierons d'être plus positifs, pour utiliser des termes contemporains. Quand on aborde le péché, cela semble un peu triste, manquer de nous donner cette espérance et cet allant que les bonnes nouvelles peuvent nous donner, que la perspective des vertus peut nous donner. Mais dans le temps du carême, il est bien évident que c'est peut-être tout d'abord face au manque de vertu que nous sommes dans un combat particulier. En effet, quand on aborde les sept péchés capitaux, nous sommes face à une nécessité de lutter contre les conséquences du péché originel. Or, le péché originel est bien une révolte contre Dieu. Le péché lui-même est une chute et le fait de se détourner de ce pourquoi nous avons été créés, connaître ce qui est vrai, connaître l'être, connaître l'être vrai et l'être bon. Et lorsque notre intelligence ne se porte pas vers ce qui est, mais ce qui est un faux semblant ou ce qui n'existe pas, lorsque notre intelligence se porte vers ce qui est faux, et lorsque notre volonté considère comme un bien apparent ce qui est parfois ni un être ni une vérité, eh bien, nous sommes dans l'erreur, nous sommes au-delà de l'erreur, dans une volonté perverse, dans le péché. Et le péché, c'est se détourner dans une matière grave, en étant conscient par notre intelligence de cette matière grave, de ce mal, de ce défaut de vérité, et bien d'y adhérer avec un plein consentement. Or, Dieu, qui est un pur esprit et qui nous désire dans la vérité et dans le bonheur, nous dit les objets moraux, les êtres, les vérités et les bontés à aimer, à comprendre et à aimer. Tout ce vocabulaire vient bien sûr de cette philosophia perennis, de cette philosophie pérenne que saint Thomas d'Aquin a développée d'une manière unique. Et nous sommes donc vis-à-vis de Dieu dans un rapport de connaissance et d'amour. Lorsque nous voulons étudier les sept péchés capitaux, il y en a un qui semble à part et qui pourtant est parfois compté parmi ces sept péchés capitaux, c'est l'orgueil. L'orgueil a pour définition la recherche désordonnée de sa propre excellence. Et dans les sept péchés capitaux, il est parfois distingué et mis hors des sept péchés capitaux parce que remplacé d'abord par la vaine gloire. Ensuite, l'envie, la sédie ou une certaine paresse, puis la colère et l'avarice, la gourmandise et la luxure. Tous ces péchés sont dits capitaux parce qu'ils sont à l'origine d'autres péchés inférieurs qu'on appelle leurs filles. On parle d'un péché et de ses filles. C'est un peu curieux, mais ça se comprend. L'orgueil est-il un péché à part? saint Thomas d'Aquin va répondre positivement par rapport à la vaine gloire, parce que l'orgueil est à la fois un péché capital et la source de tous les péchés. Pourquoi donc est-il la source de tous les péchés ? Parce que il est un péché assez extraordinaire, puisque c'est le seul péché qu'a pu commettre Lucifer. Et donc nous pouvons maintenant aborder ce péché capital de l'orgueil par celui qu'il a commis en premier, puisque lorsque Dieu a créé, il a créé plus particulièrement les anges, les purs esprits, de pures intelligences et de pure volonté. Nous avons commencé dans notre introduction par le fait que nous avons à saisir ce qui est l'être, ce qui est le vrai et ce qui est le bon. Eh bien, nous verrons que dans chaque péché, à travers ces conférences de carême, que nous manquons au véritable être des choses, à leur vérité et à leur bonté. Alors, quel est l'objet de cette faute par rapport à l'intelligence et à la volonté, puisque si l'on prend dans un premier temps Lucifer, il peut faire ce péché, tandis que d'autres péchés capitaux comme la luxure ou la gourmandise, les anges dans l'amour de Dieu, les anges dans la haine de Dieu, les démons, ne peuvent que les regarder, mais pas les commettre. Ils n'ont pas de corps. Donc si les anges n'ont pas de corps, puisque ce sont de purs esprits, nous pouvons aborder l'orgueil avec l'exemple principal de celui qui l'a commis, d'une manière toute fine, toute pure, qui est Lucifer. Il faut donc d'abord remonter à nouveau à ce que nous avons vu en introduction, c'est l'intelligence et la volonté dans les esprits. Eh bien, les anges sont des êtres qui ont l'intelligence et la volonté. Dieu est un esprit incréé qui a toujours existé, qui existe et qui existera toujours. C'est l'éternité. L'adjectif éternel est parfois utilisé de manière abusive. Il n'y a que Dieu qui soit éternel. Quand on parle d'un amour éternel pour un être humain, c'est un abus de langage romantique. Cet amour a commencé à exister, puisqu'il n'est pas Dieu. Tandis que lorsqu'on dit que Dieu nous a aimés de toujours à toujours et que son amour est éternel, c'est vrai. Et il a créé par amour, pas seulement par jeu, par risque, en se disant, parce qu'il connaît l'avenir, je vais créer des êtres intelligents et volontaires, je vais créer des anges, je vais créer des démons, pas directement, mais je sais qu'un certain nombre de mes anges, de ces pures intelligences, vont me rejeter, vont me haïr. Et c'est par jeu que je vais les créer parce que je m'ennuie. Non. Dieu, lorsqu'il crée, a voulu que tous ses anges restent dans l'amour et entre dans la vision béatifique. L'épreuve des anges a consisté à un moment donné de leur existence, lorsqu'ils ont été créés, de choisir. Ils étaient en état de grâce comme nous, mais ils n'étaient pas encore dans la vision béatifique. En état de grâce comme nous, un ange, il contemple, il comprend, il voit ce qui l'entoure, même s'il n'a pas des yeux. Il peut saisir sa propre nature, comme nous pouvons nous-mêmes réfléchir sur notre connaissance, notre âme, nos sentiments, notre passé, notre présent, et même envisager notre futur. Les anges ont cette capacité et ils sont tous individués, ils sont tous différents. Même si on distingue 9 cœurs des anges, ils ont tous une personnalité propre qui fait qu'ils ont leur propre tempérament. Et là, c'est un excès de langage, bien sûr, mais c'est plutôt par rapport à un corps. Mais notre ange gardien, par exemple, a sa propre histoire. En nous suivant depuis des années, son histoire est même orientée vers nous, et chacun a sa particularité. Mais la matière et le vivant n'étaient pas encore créés dans cette animation de la matière inerte, dans ces bactéries, dans ces poissons, dans ces oiseaux, dans ces animaux, et chez l'être humain, où Dieu met un esprit qu'il crée à chaque fécondation et non pas dans un réservoir d'esprit, et qu'il unit à un corps humain venant de l'homme et de la femme, eh bien l'ange, lui, est bien avant tout cela. L'ange est un pur esprit et il se comprend. Et il remonte à Dieu, non pas seulement en voyant les magnifiques fleurs, les paysages, les astres, mais en voyant sa propre nature et celle des autres. La création matérielle est belle, admirable, mais les anges remontent à l'existence de Dieu et sont dans leur état de grâce et remontent à l'existence de Dieu dans leur prière avant la vision béatifique, parce qu'ils se connaissent, parce qu'ils admirent la création spirituelle des anges, d'eux-mêmes et de tous leurs frères, et ils savent qu'ils peuvent avoir cette capacité d'aimer et de connaître et d'aimer. Alors comment Lucifer a-t-il pu ainsi chuter? Lucifer était un chérubin. Dans l'ordre des séraphins, des chérubins, des séraphins, il y a une connaissance de Dieu telle que l'on dit qu'ils illuminaient les autres anges. Ils sont très proches de Dieu. Lucifer est conscient de la qualité de son être, de sa nature angélique, et il approche de la connaissance de Dieu comme de manière très particulière. Et pourtant, c'est la raison pour laquelle justement on l'appelle l'étoile du matin. Et Lucifer, avant même l'épreuve des anges, que l'on estime être la création d'Adam et Ève, et l'annonce de l'incarnation, voici mon premier-né, adorez-le. Les anges, Lucifer, arrive à une telle beauté, une telle bonté de nature, qu'ils sont peut-être tentés de s'égaler à Dieu. L'épreuve des anges aurait été une annonce de l'incarnation. Quand Dieu a fait entrer son premier-né dans le monde, il a dit à ses esprits, adorez-le. Et il est bien évident que cette parole de l'Écriture ne consiste pas à présenter le Verbe. Parce que Lucifer aurait admiré une plus grande révélation du Verbe. Pourquoi? Mais ça reste très spirituel. Dieu se pense, Dieu réfléchit sur lui-même, il fléchit sur lui-même, il se dit en une parole éternelle dans son Verbe. Il n'y a pas trois dieux, il n'y a pas de succession d'actes en Dieu, c'est en un seul acte éternel que Dieu est une pure intelligence qui se connaît et qui s'exprime et qui s'appelle Père et Parole Fils. Et lorsque il voit, et tous ces mots sont anthropomorphiques, c'est-à-dire ce sont des mots maladroits par rapport à la pureté et à l'unité de Dieu, quand Dieu voit dans le miroir de son être sa bonté autant que sa puissance et son éternité, procède un amour éternel qui est l'Esprit Saint. Et c'est la raison pour laquelle, si saint Augustin a pu approcher par ses comparaisons de l'intelligence qui conçoit et qui parle, et de la volonté qui aime les trois relations qu'il y a en Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, eh bien Lucifer pouvait bien plus que saint Augustin, et il serait resté dans une admiration, et son épreuve aurait été une épreuve très spirituelle. Mais il semble bien que Lucifer et les anges ont dû affronter une épreuve bien plus difficile, qui est l'annonce de l'incarnation. Alors il y a une querelle pour définir cet orgueil, cet objet de prééminence, de placer son excellence, ses qualités au-dessus de tout autre être. Eh bien, Lucifer aurait vu en image, avec tous les anges, l'incarnation. Alors, il y a une discussion pour savoir comment aurait-il eu cette vision, puisque qui dit incarnation dit rédemption, dit péché d'Adam et Ève. Et c'est une querelle entre les franciscains qui, eux, considèrent que Dieu se serait incarné même sans péché, et d'autres, dont les dominicains, qui considèrent que Dieu ne s'est incarné que pour racheter. Mais les franciscains de considérer que l'amour de Dieu est tel pour les êtres qu'il a créés que de s'unir à la nature humaine était pour lui un couronnement d'amour. Puisque nous sommes de la matière inerte, nous sommes du végétal, du minéral, du végétal, de l'animal et de l'esprit, nous sommes vraiment à l'intersection, au carrefour, au cœur même du projet créateur. Lucifer n'a pas pu passer cette épreuve, ne l'a pas voulu, parce qu'il a considéré que la divinité lui faisait de l'ombre, que cette divinité, cette perfection et cette bonté de Dieu étaient insupportables. Et ainsi, il a dit « Non serviam », je ne servirai pas, je ne servirai plus ce Dieu. Alors que vous preniez la tradition de la vision de l'incarnation, ou que vous soyez simplement dans une épreuve spirituelle, intérieure, pour Lucifer, de tellement s'aimer soi-même ce qui est bon en soi, si c'est équilibré, mais d'avoir un désir tel de son excellence, de sa qualité, de sa propre excellence, comme dit saint Thomas d'Aquin, eh bien, là se trouve l'hubris, l'excès, le délire dont nous parlaient les Grecs et qui consiste à vouloir n'exister que pour soi-même et écarter de sa vie, de son être, de sa vérité et de tout amour, tout autre être. Lucifer est seul et pourtant par haine. La tradition nous dit qu'il aurait emporté un tiers des anges. Jérémie, dans son chapitre 2, verset 20, dit de Lucifer « Vous avez brisé le joug, vous avez rompu vos liens et vous avez dit « Je ne servirai pas ». Ô toi qui étais l'étoile du matin, eh bien, il est tombé. Il est tombé très bas parce que sans la source, le fleuve ne peut plus couler. Et ainsi, Lucifer s'est desséché dans une haine profonde qu'il a voulu communiquer. Cet orgueil, il a voulu le donner à Adam et à Ève en leur disant que Dieu était menteur et que s'ils pouvaient d'eux-mêmes déterminer ce qui est le bien et le mal en prenant de ce fruit mystique, magique, eh bien ils seraient des dieux. Et c'est la raison pour laquelle ce péché est à la fois un péché faisant partie des sept péchés capitaux et d'un autre côté, dans sa généralité, le premier de tous les péchés. Et c'est la raison pour laquelle on parle plutôt de vaine gloire lorsqu'on parle de l'orgueil faisant partie des sept péchés capitaux. Maintenant, allons à l'homme. Comment l'homme peut-il avoir un tel désir luciférien, lui qui est si faible, lui qui a un corps, lui qui est pesant, lui qui vieillit, qui a besoin de se laver, qui a besoin de manger? Comment l'homme peut-il être aussi prétentieux de sa propre excellence? Oui, l'orgueil et la vaine gloire chez l'homme est déraisonnable, presque. Mais souvenons-nous toujours de ce qu'est un péché, la matière grave, la pleine advertance, la conscience que l'on est en train de faire une chose grave et le plein consentement. L'acte, l'objet de l'acte, l'intelligence de cet acte et la volonté de faire cet acte. La matière, l'objet de l'acte, la pleine conscience, la pleine advertance et le plein consentement. Et heureusement que nous ne sommes pas lucifériens à chaque fois que nous avons le désir d'être excellent, d'être unique et de mépriser les autres. Les filles de l'orgueil dont je vous parlais tout à l'heure, les filles de l'orgueil vont nous dire quelque chose pour approcher. La vaine gloire, plus particulièrement, comme elle considère que nous n'avons pas besoin d'augmenter, de progresser dans notre vie, elle est présente chez le petit enfant. Il est quand même étonnant qu'un enfant de 3 ans, de 5 ans, arrive à être dans l'orgueil. Mais parce que c'est un petit être humain, il a une âme immortelle comme nous. Et le fait même pour lui de ne plus avoir peur et d'avoir suffisamment de connaissances à partir d'un certain âge, lui donne une assurance qui nous étonne. Et lorsqu'il commence à dire non à tout ce qu'on lui propose, c'est parce qu'il considère qu'il sait déjà tout. C'est une des causes de cette filiation de l'orgueil qu'est la désobéissance. En tant que vice, désobéir, c'est considérer qu'on a raison contre celui qui nous demande quelque chose. Et donc, lorsque nous sommes enfants, adolescents, alors le pire, c'est l'âge bête. L'âge bête, c'est l'âge de celui qui va considérer tout savoir à 12 ans, 14 ans, et qui va désobéir, qui va rechigner. Mais l'âge ingrat, qui est plutôt vers l'âge de 16, 18 ans, est impressionnant. Parce que là, il y a beaucoup plus de malice. Ce n'est pas l'âge bête, c'est l'âge ingrat. Et là, il peut durer bien plus longtemps. Parce que lorsqu'on est adulte et qu'on est conscient de nos limites, on voit bien à un moment donné que nos désobéissances conscientes et volontaires sont des péchés et qu'elles sont fondées sur notre suffisance. Vous avez aussi la jactance, qui est une fille de l'orgueil. Vous avez l'hypocrisie. L'hypocrisie. Pourquoi l'hypocrisie est-elle une fille de la vaine gloire? Eh bien parce que nous cachons notre opinion, puisque nous sommes sûrs de cette opinion par rapport à ce que l'on voudrait nous imposer de l'extérieur. Et nous sommes tellement fermement attachés à notre opinion et à nos certitudes que l'on considère les autres comme des ennemis, comme des idiots utiles, et cela provoque l'hypocrisie. Une autre fille de l'orgueil, c'est la dispute et la querelle. Pourquoi ? Mais parce que quand vous vous considérez comme excellent, vous ne vous comportez même pas comme Dieu. Dieu est doux et humble alors qu'il est Dieu, qu'il sait tout, qu'il connaît tout, le passé, le présent, l'avenir, toutes les vertus, toutes les réalités. Et avec quelle patience et avec quelle miséricorde il nous supporte, il nous porte et il nous encourage. Tandis que celui qui considère tout savoir et qui se considère comme excellent, il va rentrer en conflit avec l'autre. Alors nous verrons que dans le péché capital de colère, eh bien, il y a donc cette source de l'orgueil. Mais si l'on considère que tout dérèglement de l'appétit est de par rapport à tout ce que l'on désire de manière déréglée est une enflure de notre âme, alors on pourrait tout qualifier d'orgueil. Mais il nous faut bien avoir une plus grande richesse de vocabulaire. L'obstination est une autre fille de l'orgueil. Lorsque vous vous querellez et que vous ne voulez pas perdre votre, comment dire, ne pas être contredit et rester sur vos positions, cette obstination qui est contraire à l'amour et qui est contraire à la paix. La discorde, vous me direz si la dispute, l'obstination sont déjà riches en vocabulaire. Pourquoi donner un synonyme ? Non, la discorde, c'est la querelle, la dispute qui perdure. Et vous avez des personnes de discorde, qu'on peut appeler même des querelleurs, tellement en eux, cette inclination de l'âme est forte. Et il nous faut arracher dans nos cœurs cette suffisance, cette opinion excellente que nous avons de nous-mêmes pour arriver à l'humilité. Et l'humilité, c'est bien l'opposé de l'orgueil. L'humilité, lorsque l'on expose l'orgueil, doit être présentée finalement comme le remède. Nous avons vu que la vie de l'homme, par son esprit, c'est de saisir des objets, de comprendre par son intelligence, de juger, d'estimer ce qui est bon et vrai, et de le suivre par notre volonté. C'est le fait des purs esprits, et le fait des esprits qui habitent un corps, dans une nature tellement complète, que nous ne nous devons jamais mépriser ni nos yeux, ni notre nez, ni nos oreilles, ni notre bouche, ni notre toucher. Le puritanisme ne vous donnera pas l'amour et la paix. Il nous faut l'équilibre dans les vertus. Et l'équilibre dans la vertu, dans l'humilité, elle atteint un sommet. Bien sûr, le mot humilité vient de humus, le sol. Donc on aurait tendance à considérer que être humble, c'est de se sentir inférieur. Mais c'est faux. La vertu d'humilité, on vous le dira 100 fois, on vous le répétera 100 fois, mais vous le savez donc déjà. La vertu d'humilité, ce n'est pas de s'écraser, ce n'est pas de s'estimer un ver de terre. La vertu d'humilité, c'est d'être ce que l'on est. Alors comme il est difficile de bien se juger, la vertu d'humilité est difficile, à appréhender. L'humble reconnaît ses qualités et l'humble reconnaît ses défauts. Mais l'humble reconnaît ses qualités. Et la fierté n'est pas de l'orgueil. La fierté, c'est la conscience de sa propre excellence, juste et vraie. Alors, lorsqu'on est humble, eh bien, il faut reconnaître le bien que l'on fait. La source de bien que nous sommes lorsque nous avons des vertus. Les uns seront plus prudents, les autres seront plus courageux et généreux, d'autres seront un peu plus lents à la détente et lymphatiques, mais ils absorberont la colère des autres. Il faut de tout pour faire un monde. Mais là, c'est arrivé au tempérament. Les vertus sont communes à tous les tempéraments, mais vous avez des tempéraments qui vont encourager certaines vertus. Celui qui est nerveux, celui qui est sanguin, c'est pas la même chose. Celui qui est nerveux, c'est plutôt celui qui va réagir au quart de tour. Le sanguin, c'est celui qui va exploser. Le bilieux, c'est l'inquiet. Le lymphatique, c'est le grand calme. Eh bien, par rapport à l'orgueil et par rapport à l'humilité, l'orgueilleux va user par son péché capital, parce qu'il est à la tête de tous les autres péchés, et que la vaine gloire est un péché capital qui est un autre mot de l'orgueil, pour le distinguer et pour ne pas faire de tout péché orgueil. Celui qui est lymphatique et calme sera désespérant d'orgueil lorsqu'il est véritablement fondé, enraciné dans ses certitudes, impossible à émouvoir. Tandis que le bilieux, lui, au moins, s'il est scrupuleux dans son orgueil, n'est pas dans cette paix, n'est pas dans cette fausse tranquillité. Le scrupuleux, lui, par rapport à l'orgueil, est tellement dérangé par ses défauts qu'il en fait des montagnes dans lesquelles il habite en faisant des grottes. Et il est difficile de sortir les scrupuleux du fond de leur grotte. Il faut les tirer avec des cordes, avec des chaînes, pour qu'ils puissent sortir enfin de leur superbe caché de fausse modestie. Mais l'humilité va donc parvenir à cette finesse toute particulière qui nous fait reconnaître aussi bien nos péchés, nos torts, nos défauts, nos faiblesses. Et quelle libération, puisque c'est vrai. Oh mon Dieu, comme on abandonne cet orgueil pesant, cette fausseté, cette illusion, lorsqu'on est humble, lorsqu'on se confesse. La confession est quelque chose d'extraordinaire. Et c'est un cadeau de notre Seigneur Jésus-Christ. Car, pour terminer, nous devons bien comprendre que les exemples d'humilité sont là pour nous porter et pour nous montrer que c'est possible. Lucifer, c'est l'exemple de l'orgueil. C'est aussi l'exemple de la haine, de la persévérance dans la haine. Dieu est l'exemple de l'humilité. Il est le Tout-Puissant et il se fait petit enfant. Dieu s'entoure d'âmes humbles. Bien que Saint-Michel ait répondu à Lucifer, non pas dans un acte d'humilité, mais en un acte de vérité. « Je ne servirai pas, non serviam. » Et Saint-Michel répond à Lucifer, « Michael, comment oses-tu ?» En hébreu, Michael, Michel, d'où son nom, quis ut deus en latin. Mais qui est comme Dieu ? Comment peux-tu te comparer à Dieu ? Et Dieu de répandre son amour, son humilité, sa force à travers des saints et des saintes de tous les siècles. Et c'est vrai, plus particulièrement, dans la faiblesse, dans la douceur. Mais Dieu a aussi suscité des saints nerveux et sanguins. Mais Dieu s'est complu dans l'âme de la Vierge Marie. Il s'est complu dans l'âme de Saint Joseph. Cependant, Saint Joseph, il se lève. Il est inquiet. Et l'ange, pendant son sommeil, lui dit de recevoir Marie et que son enfant vient de l'Esprit Saint. Il n'est donc pas indifférent, Saint Joseph. Il est un homme juste, un homme humble mais juste. Et alors il prend la femme, la mère et l'enfant. Et quand on lui annonce que cet enfant est en danger, il part en Égypte. Il trouve du travail, il donne la nourriture à Marie et l'enfant. Il revient à Nazareth. Il est humble, mais actif. Marie, elle est douce, elle est humble. Mais quand il s'agit d'être aux noces de Cana, à appeler son fils à faire son premier miracle, elle est audacieuse, tout en étant humble. Le Christ lui dit, « Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi ?» Ève, qu'y a-t-il entre toi et moi, le nouvel Adam ? Et Marie, dans son audace, pleine de force, faites tout ce qu'il vous dira. Oui, doux et humble de cœur, le Christ est bien là. Doux et humble de cœur, il fait ses miracles. Doux et humble de cœur, il va nous emmener pendant ce carême. Doux et humble de cœur, il va nous montrer qu'il est Dieu en ressuscitant des morts, en redonnant la vue aux aveugles, en multipliant les pains. Mais doux et humble de cœur, il pardonne. Il pardonne aux pécheurs, il pardonne à Marie-Madeleine, il pardonne à Pierre et il le confesse. Pierre, m'aimes-tu ? Tu sais que je t'aime. Pierre, m'aimes-tu ? Mais je t'aime, paie mes agneaux, Pierre, m'aimes-tu ? Mais tu sais toutes choses, pourquoi me torturer ? Paie mes brebis. Dieu confie les agneaux, Dieu confie les brebis, Dieu confie tout à celui qui va être son vicaire, et il donne à ses apôtres et à Pierre le pouvoir de remettre les péchés. À ceux qui sont doux et humbles, à ceux qui ne ressentent pas la confession comme une humiliation, même si parfois il y a des prêtres désagréables, eh bien, la confession, c'est la libération de notre âme, de notre conscience, qui dépose aux pieds de Jésus le poids de la croix. C'est Marie qui nous relève, elle qui est debout au pied de la croix. C'est Pierre qui est pardonné trois fois parce qu'il a péché trois fois. C'est l'espérance et c'est la victoire de la charité et c'est le dépit de Lucifer, une âme humble, une âme qui reconnaît ses qualités et qui reconnaît ses défauts. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.